C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 124 du 5 janvier 2026. Au sommaire de cette première émission de l'année 2026, chronique transcontinent queer, nous faisons le point sur l'actualité pancanadienne, notamment en Alberta où le gouvernement invoque la clause de dérogation pour limiter les droits des personnes trans. En entrevue aujourd'hui, je reçois M. Anne qui est de l'association française L'Autre Cercle. Nous discuterons de l'inclusion des personnes de LGBTQIA+ en milieu de travail et de l'importance du respect du prénom d'usage. Et puis culture queer, enfin, nous accueillons l'auteuriste Nour Simon. Et nous serons accompagnés de Joël Prudhomme et de Brian Saint-Louis.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Et oui, bienvenue à ce premier segment Transcontinent queer de l'année 2026. Alors, nous allons traverser le pays aujourd'hui d'un océan à l'autre pour prendre le pouls de nos communautés. Entre recul législatif inquiétant et initiatives prometteuses d'espoir, l'actualité queer francophone du Canada est plus dense que jamais. Et pour en discuter, donc, je rejoins Arnaud Baudry à Toronto. Arnaud, bonjour. Et je rejoins aussi Roseva Forge-Jenkins, qui est à Edmonton, et éventuellement Daniel Robichaud à Clare, en Nouvelle-Écosse, qui va se joindre à nous trois, à nous. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer avec toi, Roseva. Le gouvernement de Daniel Smith utilise la clause de dérogation pour bloquer toute contestation judiciaire de ces lois visant les personnes trans. D'abord, on va rappeler c'est quoi ces droits que l'Alberta retire aux personnes trans.
Oui, alors c'est très global, disons, d'une façon très négative, que c'est vraiment beaucoup des gros droits, c'est les traitements de bloquants de la puberté et aussi le consentement parental pour les choix de nom et de pronom des enfants de moins de 15 ans dans les écoles. Donc si un élève à une école veut changer leur nom et pronom juste dans l'école, juste pour dire à leur professeur, pouvais-tu utiliser ce nom et ce pronom? Il faut demander le consentement des parents. Et aussi, les ressources éducatives concernant l'identité de genre et la sexualité dans les écoles. Donc, moi, je travaille pour le Comité franco-queer de l'Ouest. Mon organisme, avant, faisait des ateliers dans les salles de classe pour parler de, tu sais, c'est très... Qu'est-ce qu'on parlait? C'était très simple. C'était juste expliquer l'acronyme de LGBTQIA+, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on n'a pas encore reçu le consentement du gouvernement pour donner ces ateliers dans les salles de classe.
Wow!
Oui, même, tu sais, les enfants du secondaire ont pas le droit de savoir c'est quoi LGBTQIA+, qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi, la participation des personnes transgenres dans les sports. Donc, ça va pour tout âge, pour tout le monde. Moi, je connais des personnes, tu sais, qui sont dans des, tu sais, qui font partie des groupes sportifs et il faut qu'ils, tu sais, disent que seulement les femmes cisgenres peuvent être en compétition avec des femmes cisgenres, seulement les hommes cisgenres peuvent être en compétition avec des hommes cisgenres. Alors, tout accès au sport sont complètement restrictés des personnes trans.
J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à une rupture sans précédent du contrat social en Alberta. Est-ce que je me trompe?
Absolument, absolument. C'est un contrat social que, tu sais, en général, que les demandes de la population ne sont pas, ce sont absolument pas importants. Il y avait aussi une grève des professeurs scolaires plus tôt cette année et le gouvernement d'Alberta aussi utilisait la clause dérogation pour, ou dérogatoire, pour forcer les professeurs à retourner à l'école. Alors, il n'y a aucune confiance dans le gouvernement de l'Alberta d'avoir, tu sais, vraiment le support de la population à cœur, parce que, tu sais, le support pour les professeurs et leurs droits étaient très forts. Le gouvernement n'a pas écouté et a forcé ce qu'il voulait. Et ils font de la même chose avec le droit des personnes trans. Alors, c'est vraiment un gouvernement pour qui leur objectif, c'est de pousser leur mandat sans aucune, c'est vraiment faire semblant de tenir les intérêts de la population au cœur.
Bon, présentement, il y a beaucoup d'impacts, notamment là, de tout ça, mais il y a quand même des impacts, puis il y a de la mobilisation. On peut parler du boycott de certaines fédérations sportives. Est-ce qu'on va vraiment assister là, à une mobilisation, peut-être de partout au Canada, mais même dans le monde, contre le gouvernement, j'oserais dire, avec des politiques d'extrême droite là, de Daniel Smith?
J'aimerais voir ça. Je suis vraiment contente que c'est la Fédération du patinage. De ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est que le patinage tout autour du Canada et ils ont des différents événements dans différentes provinces et ils ont dit on ne va pas avoir des événements à l'Alberta parce que on veut que les personnes qui participent dans nos compétitions sportives, il n'y a pas cette même restriction sur les personnes trans en Alberta. Je pense que c'est une excellente façon de montrer de la solidarité parce que il ne punit pas les personnes qui veulent qui sont en Alberta qui veulent faire partie de la compétition. Les autres peuvent aller à d'autres provinces, c'est juste qu'ils vont pas avoir des compétitions en Alberta qui vont amener de l'argent et tout ça à l'Alberta. Je pense que c'est une très très bonne façon de montrer cette solidarité et c'est le patinage artistique, on s'est dit ben c'est un monde sportif que, disons, il y a tout le temps eu une grosse alliance avec la communauté queer. Qu'est-ce que moi, j'aimerais voir, c'est voir ça avec d'autres, sports aussi. Parce qu'on voit, dans la société, il y a Heated Rivalry, une émission de télévision qui montre, des personnes queer dans le monde du sport. C'est une grosse, c'est la fureur tout partout. Tout le monde est en train d'en parler. Et, je pense même, une des ligues un des groupes sportifs de hockey a dit, merci pour l'attention, c'est super. Et ce qu'ils pourraient faire avec ça, c'est dire, et merci pour l'attention des personnes queer qui regardent cette émission-là. Et voici comment on va montrer la solidarité en parlant de ce qui arrive en Alberta.
Je vais faire intervenir à Arnaud à Toronto. Arnaud, c'est sûr que là, qu'on n'est pas dans la même situation en Ontario, mais est-ce qu'on peut avoir des craintes que ce qui se passe en Alberta, ça a des petits ailleurs au pays? Et deuxièmement, est-ce que les communautés queer d'ailleurs peuvent et doivent se mobiliser? C'est deux grosses questions, mais je te laisse aller là-dessus.
Je pense que le contexte politique a une influence, comme le contexte politique aux États-Unis, celui en Alberta, là, ça peut donner des idées aux différents groupes plus conservateurs. Donc, je pense que malheureusement, oui, ça a une influence. Et quand on a, dans notre mouvement, on essaie de mettre en avant les droits de la personne, et là, clairement, ils sont piétinés. Et on voit, alors est-ce qu'il faut une solidarité? Bien sûr qu'il faut une solidarité, après ça peut prendre différentes formes. Je pense que la manière dont le gouvernement en Alberta cherche à passer en force, ça montre aussi qu'il y a une méconnaissance des enjeux. Et aussi je pense que ça montre un décalage entre la compréhension des personnes homosexuelles et la compréhension de l'identité de genre. Parce que là, ce qui est mis en question, c'est vraiment les jeunes trans. Et les choix qui sont effectués par ce gouvernement, en fait, c'est des choix qui vont renforcer les jeunes trans dans leur vulnérabilité. C'est pas des choix qui vont leur permettre de prendre des décisions informées, avec l'appui de leurs parents, avec l'appui des professionnels de santé. Avec l'appui des écoles aussi, parce que l'argument qui est mis en avant, par exemple pour les écoles, c'est que les parents puissent connaître le choix de leurs jeunes dans les écoles, mais en fait, ça risque de les mettre à risque dans les familles et en particulier dans les familles où il n'y a pas cette communication, il n'y a pas la sécurité pour que les jeunes puissent exprimer entièrement leur identité de genre. Donc, en fait, ça vient renforcer les risques pour les personnes qui sont le plus à risque déjà.
Et puis, je pense qu'il y a quand même un mouvement de boycott. Est-ce que ça peut avoir de l'impact? Est-ce que ça peut se mobiliser, ce genre de boycott qui a commencé quand même? Il y a certaines fédérations sportives là, qui ne veulent plus aller en Alberta.
Mais ça, c'est intéressant. Effectivement, comme disait Roséva, je trouve que c'est une manière de s'opposer. Maintenant, on le voit, nous, là où on intervient dans les écoles aussi, les jeunes sont inquiets. Y a vraiment quelque chose qui s'exprime. La situation est incertaine. Donc, ça génère beaucoup d'anxiété chez les jeunes.
D'accord. Je vais aller tout de suite maintenant du côté de Toronto, puisque tu es là et que tu es au micro. Arnaud Franco-Queer a reçu quelque chose comme 100 000 $ de la Fondation Trillium pour soutenir les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. C'est quoi les enjeux?
Alors justement, il y a la question des espaces sécuritaires dans les écoles. Pour beaucoup de personnes queer et trans, les écoles, ça peut constituer un espace plus sécuritaire que la famille, en fait. Donc c'est important de maintenir et de continuer à construire ces espaces sécuritaires dans les écoles. Il y a encore beaucoup d'intimidation. De violence qui s'exprime envers les personnes de nos communautés. Donc, le projet, il vise à appuyer l'organisation d'alliances de la diversité humaine, d'alliances LGBTQIA+, dans les écoles. Donc, on travaille là en particulier avec trois conseils scolaires partenaires dans la région d'Ottawa. Et donc, l'idée, c'est de renforcer les échanges entre les jeunes qui font partie de ces alliances et de développer des outils pour leur permettre de faire mieux fonctionner leurs alliances et d'inclure aussi les personnes alliées. Donc, il va y avoir des ateliers destinés aux jeunes, vraiment dans une idée d'empouvoirment pour leur communiquer des informations utiles par rapport à leurs propres droits, comment faire valoir leurs droits dans le contexte des écoles, et puis aussi un atelier qui sera destiné au personnel enseignant pour les appuyer avec les projets d'alliance et les appuyer aussi pour savoir mieux intervenir en cas de discrimination ou cas d'intimidation homo, bi, transphobe.
Écoute, ça semble répondre quand même à ce qui se passe en Alberta. Il y a Dan qui se joint à nous. Dan, j'aimerais qu'on parle rapidement. Il y a une étude de l'Université Dalhousie qui examine l'impact de la haine croissante sur la santé mentale en Atlantique. Comment se constate donc ces impacts-là?
Ben, au Nouveau-Brunswick, ça s'appelle qu'on constate plus d'événements qu'en Nouvelle-Écosse, mais ce n'est pas toujours des grands événements. En Nouvelle-Écosse, c'est plutôt une accumulation de petits événements de vandalisme ou de discours haineux. Puis l'étude vise pas seulement à cataloguer les instants, mais comment les gens réagissent et de rendre aux organismes communautaires ces données-là pour qu'on puisse réagir et répondre aux besoins.
Alors, tout ça semble s'inscrire en fait dans une mouvance. On a commencé en Alberta avec Roseva qui nous disait ce qui se passait avec la clause de dérogation pour enlever les droits des personnes trans. Et puis en Ontario, on essaie d'équiper ou d'outiller les jeunes. Et là, on essaie aussi de documenter parce qu'il y a des conséquences à ça. Je vous lance la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est l'impact de cette haine sur les membres de nos communautés? Je pense que je vais faire le tour. Vas-y, Daniel, comment ça se vit, cette haine-là, chez les gens?
Ben, je pense que ça impose une prudence. Il y a peut-être des gens qui veulent présenter une opinion ou quelque chose, mais qu'on tombe au silence. Et remarque, il y a des manifestations et contre-manifestations souvent sur les sujets touchant des activités ou des festivals LGBTQ+.
J'irai de ton côté, Roséva.
Oui, alors il y a un article qui a été fait à Le Devoir qui
Oui.
parle de ça et qui a un étudiant qui s'appelle Quinn Bergman qui, c'est ça, a dit que quelqu'un a été poussé au suicide par une vague d'haine envers les personnes trans. Et la citation, c'est que ce sont des mesures comme celles prises par le gouvernement qui font perdre l'espoir aux gens. Alors, c'est vraiment, tu sais, perdre l'espoir parce que c'est comme on se sent tellement pas entendu parce que, comme j'ai dit, le gouvernement force ses idées sans écouter. Alors, on se sent comme si il y a, tu sais, on
Il
se
n'y a plus
manifeste,
d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, c'est ça, hein?
on fait ce qu'on peut, mais le gouvernement nous écoute pas. Alors, c'est vraiment dur. Tu sais, je connais aussi des personnes trans qui ont vécu dans cette province en tant que personne trans pour 20 ans. Puis cette personne a dit, tu sais, dans toute ma vie, je me sentais tout le temps très sécuritaire. Il dit seulement maintenant, je commence à me sentir, est-ce comment les gens vont réagir vers moi? Alors, c'est vraiment une situation très, très extrême en Alberta.
Et rapidement, je te donne 15 secondes, Arnaud, parce qu'on doit terminer.
Mais écoute, l'impact, il est clair, c'est la charge mentale, c'est une santé mentale fragilisée, qui peut pousser même à avoir des idées suicidaires. Donc l'impact est grave, c'est important. Et même pour des personnes qui, comme je disais avant, là, qui vivent dans des environnements où ils n'ont pas cet appui, où ils n'ont pas la possibilité de s'affirmer, l'école, c'était un lieu où ça peut être un lieu où les personnes pourraient le faire, mais c'est clairement, ça se dégrade.
On va devoir arrêter ici. Merci beaucoup, Arnaud Baudry. Merci aussi à Roséva Falk-Jenkins et merci à Daniel Robichaud. À la prochaine.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
M. Anne est une personne militante active au sein de l'association L'Autre Cercle, une organisation dédiée à l'inclusion des personnes LGBT+ dans le milieu professionnel. Et elle encourage les entreprises françaises à adopter des pratiques inclusives envers les personnes LGBTQIA+. Un engagement nécessaire et parfois risqué dans le climat difficile qui prévaut en France et en Europe et pas mal partout sur la planète. Bienvenue à l'émission EM.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, M, j'aimerais te demander d'abord quels pronoms et quels accords tu utilises.
Moi, j'utilise le pronom d'elle, je fais les accords masculins.
D'accord. Merci. Alors, on va essayer de ne pas se tromper, mais tu me reprends si je me trompe. Merci. D'abord, parlons de toi. On ne te connaît pas autant de notre côté de l'Atlantique au Québec, mais parlons un petit peu de ton parcours.
D'accord. Moi, j'ai une formation en politique publique. Et j'ai un peu travaillé pour l'OCDE sur du sujet LGBT+, en tant que consultant. Et par la suite, je me suis engagée à l'Autre Cercle en tant que bénévole à côté de mon travail. Donc c'est le parcours de politique publique, il en forme encore un peu ma perspective, parce qu'on travaille avec des employeurs aussi privés que publics. Mais c'est un engagement complémentaire aussi, plein de sens pour la société. Et,
Justement, en quoi ce parcours? Parce que, on le sait, tu nous as dit que tu étais une personne qui utilise les pronoms « iel ». On peut présumer que tu te définis comme personne non-binaire. Et en quoi ça influence ton engagement militant envers les causes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres? C'est une bonne question.
Tout à fait. Oui, donc pour moi, faire un coming out non-binaire, ce n'était pas évident. Je me posais des questions depuis très longtemps, mais j'hésitais un petit peu comme... Je pense beaucoup de personnes socialisées femmes, on hésite à déranger, on n'a pas forcément envie de... Enfin, envie. C'est difficile d'assumer une identité qui est critiquée, qui est parfois considérée comme farfelue.
Oui, il y a des gens qui regardent cette identité comme étant totalement loufoque. Ça ne l'est pas, on va se le dire là, quand même. Là.
Oui. Ouais. Moi, j'ai eu un déclic qui est lié à un problème de santé, parce que je suis en situation de handicap et j'avais un moment d'incertitude sur l'évolution de cette situation-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de me dire, en fait, il ne faut vraiment pas vivre pour les autres, en supposant que comme on dérangera moins sans faire un coming out, la vie, elle est courte et il faut être soi-même. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là aussi que ça s'est déroulé.
Est-ce que tu permets que je te pose la question parce que je ne connais pas ta situation d'handicap? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Si tu es à l'aise, là.
Oui, j'ai une maladie neuromotrice. Qui fait que par de poussée, je peux avoir des problèmes de mobilité, me déplacer en béquille, etc.
Ah, d'accord.
Et en fait, c'est pas dégénératif, donc c'est positif. Mais pendant un moment, je savais pas. Et juste, j'avais beaucoup de mal à marcher, je tremblais, j'arrivais pas à faire des gestes assez quotidiennes, etc. Donc c'était un moment aussi difficile, mais de remise en question. Et après, en rétrospective, il m'a permis d'être très honnête avec moi-même, parce que parfois, c'est des moments comme ça qui déclenchent ça.
Parfois, l'adversité, ça nous aide à avancer malgré tout ce qu'on peut en penser. Donc, tu te retrouves, si on peut utiliser le terme, à l'intersectionnalité en tant que personne d'une identité différente et aussi d'une motricité différente. Mais cela, on te regarde aller, puis on voit que tu t'en sors très bien quand même.
Merci.
Alors, tu es sur la coprésidence de l'Autre Cercle, on en a parlé, Île-de-France. Quelle est cette association? Qu'est-ce qu'elle fait?
Notre raison d'être, c'est de faire en sorte à ce que l'inclusion LGBT+ fasse partie des politiques employeurs en France. Donc, on travaille avec les employeurs en France, publics, privés, de toute taille, des TPE au CAC 40, dans le secteur public, des CCAS jusqu'au ministère, pour ancrer l'inclusion LGBT+ au travail.
Alors, vous militez donc pour ces entreprises, pour qu'on inclue donc ces personnes. Pourquoi c'est important de le faire? C'est encore une bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire, mais la principale raison pourquoi les entreprises doivent inclure les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres?
Bien sûr. Déjà, c'est une dignité. A priori, pour la majorité des personnes, c'est une nécessité de participer au marché du travail, donc c'est une question de dignité. C'est une question de rendre effectifs les droits aussi, parce que la loi française prévoit que la discrimination sur base d'orientation sexuelle ou d'identité de genre est illégale. Ensuite, encore faut-il faire appliquer cela. Et il y a aussi des textes du défenseur de droits, mais les textes, c'est beau, mais ensuite, travailler ensemble avec les employeurs pour créer de bonnes pratiques, pour créer des process fluides pour cela, c'est là où on trouve notre sens.
Il y a quand même un sondage qui révèle que les entreprises qui font ça ont plus de succès, ont plus de productivité, ont plus de facilité à recruter, n'est-ce pas?
Et oui, il y a une certaine recherche autour de ces sujets-là. Ouais.
Parlons-en de cette étude Ipsos, c'était Ipsos Pride, c'est ça, de 2023? Ouais.
Les études sur les bénéfices de productivité, c'est d'autres études.
Mais, d'accord. Ouais. D'accord. Allons-y maintenant, les solutions pour l'inclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour les personnes, parce que c'est une identité qui est plus difficile à comprendre pour certains, l'identité non-binaire ou gender fluid ou fluidité de genre. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut proposer des entreprises qui veulent ouvrir à ces personnes, notamment dans le recrutement, mais aussi dans le maintien et dans la facilité aussi pour ces personnes à travailler?
Déjà, on a un outil principal pour lequel on est connu aussi, c'est la charte d'engagement LGBT+, qui est un plan d'action dans le cadre duquel les entreprises s'engagent à mettre en place un certain nombre d'actions sur 3 ans. Prendre un engagement public, on pourra peut-être en parler plus en détail après, mais prendre un engagement public pour la diversité, c'est la première chose à faire, je pense. Que ce soit aussi retrouvable sur les sites internet, etc. Ensuite, que le processus de recrutement soit inclusif. Par exemple, quand on marque homme, femme, de mettre un X aussi ou un D pour signaler qu'on est ouvert aux personnes non binaires aussi. C'est déjà un signe très positif et certains de nos employeurs l'ont fait. Ensuite, dans le processus de recrutement, permettre l'utilisation d'un prénom d'usage, par exemple, pour que les personnes trans et non-binaires qui n'auraient pas encore fait de changement à l'état civil puissent utiliser leur prénom et les pronoms qui conviennent lors du processus de recrutement. C'est un très bon signe. Et ensuite, pour les personnes en place, de faire en sorte à ce que le SIRH, donc le système d'information, le système informatique des RH, permette aussi le prénom d'usage.
D'accord. Et ces politiques-là, elles sont faciles à mettre en place, surtout dans le climat actuel, parce que je vais y revenir un petit peu plus tard, mais dans le climat actuel, ça ne doit pas être facile.
Oui, enfin ça dépend. On observe une diversité de maturité sur le sujet. Il y a des employeurs qui sont très engagés, qui sont très avancés là-dessus et pour lesquels ça ne pose aucun problème. Ensuite, il y a des employeurs qui commencent sur le sujet. Là, on va prioriser les éléments à mettre en place parce qu'en effet, ça nécessite un certain effort, notamment les sujets autour du SIRH. Ce n'est pas toujours évident tout de suite. Ensuite...
Oui, non, allons-y. Je parlais de ce climat et je veux ramener aussi au climat qui est imposé par les États-Unis. Il y a des politiques états-uniennes, internationales maintenant qui disent si vous avez des politiques qu'on appelle EDI, équité, diversité, inclusion, on ne veut plus faire affaire avec vous. Oui. Est-ce que ça joue ça en France?
Ça peut jouer. En fonction de la situation de l'entreprise déjà, parce qu'évidemment, il y a des filières françaises, des entreprises américaines. Ensuite, il y a des entreprises françaises, mais dont un pourcentage important du chiffre d'affaires est en lien avec le gouvernement fédéral américain, ou alors des entreprises françaises qui ont peut-être des petits contrats, mais des liens moins contraignants. Et donc, les pressions ne sont pas forcément les mêmes, les réactions non plus, mais au début, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Alors, ça a un impact, c'est sûr. Mais on est quand même un peu rassuré de voir que l'impact il semble davantage fort sur l'affichage. Donc les entreprises affichent un peu moins leurs actions diversité inclusion, vont peut-être changer les mots employés sur l'intranet, le site internet, etc. Mais quand même, dans la majorité, maintiennent le fond de l'inclusion parce que c'est basé sur une conviction. Ensuite, les entreprises qui vraiment réduiraient leur politique et diversité inclusion, on peut aussi considérer qu'en partie, cet engagement il n'était peut-être pas porté par une conviction très forte.
Alors, dites-moi, on vient de passer une saison de fierté. C'était une saison qui était chargée d'émotions. Ça s'est passé comment pour toi?
Par rapport à la marche?
Par rapport à la marche, par rapport à la fierté, par rapport à tout ce qu'on vit depuis quelques années.
Oui, c'est très intense. Oui, pour moi, c'est... je me dis... qu'on vit dans une période historique. Après, je me dis que toutes les périodes sont historiques. Et que la marche, finalement, on s'est dit, ah oui, la marche cette année était quand même vachement politisée. Et après, on s'est dit, finalement, nos identités sont toujours un petit peu politisées. Donc, on s'inscrit dans la continuité de nos ancêtres LGBTQIA+. Voilà.
Et vous êtes dans cette lignée-là. J'aimerais terminer parce que vous avez, à votre organisation, vous avez publié récemment Parcours jeunes sur l'inclusion LGBTQ+. Alors, on parle des études du monde professionnel. Qu'est-ce qu'on y apprend? Et est-ce que les choses... En fait, qu'est-ce qu'on apprend? Puis, est-ce que les choses s'améliorent? On a besoin d'espoir, quelque part.
Est-ce que les choses s'améliorent? Alors, les jeunes valorisent beaucoup la diversité et l'inclusion. Ils en font un critère de choix de leur employeur. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils sont aussi plus inclusifs, beaucoup plus inclusifs en moyenne. Ils ont plus nombreux à affirmer des identités de genre non cis. Donc, selon, justement, l'enquête Ipsos Pride que vous avez évoquée, parmi la Gen Z, on est à peu près 11% des jeunes qui revendiquent une identité de genre non cis, donc trans, non-binaire ou autre. Donc, on voit plus de liberté, plus de oui, elles s'affirment plus dans leurs identités. Et on voit quand même, pour les jeunes, là aussi un grand besoin employeur, parce que malgré tout cela, l'entrée sur les marchés de travail, c'est un moment où on est junior par rapport au monde professionnel et qu'on voit qu'au premier contact avec le monde du travail, seulement une personne sur deux en stage ou en alternance va choisir de se rendre visible auprès de son employeur. Donc on voit beaucoup de motivation, que ça leur importe, mais ensuite, encore faut-il qu'on soit à l'auteur de leurs attentes.
Bien, on va terminer là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment le bon message d'espoir à donner à tout le monde. Anne, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Allô, allô tout le monde, c'est le fun, on est de retour à ce happening que j'appelle Culture queer. Joël Prudhomme.
Allô!
On a notre invité du mois. Nour Simon, allô!
Salut, salut!
Et à Québec, on a Brian Saint-Louis, salut!
Bonjour tout le monde!
Alors, bonne heureuse année, puis on commence tout de suite, on plonge dans un univers qui est vraiment le fun. Artiste aux multiples talents, Nour Simon nous offre Kawal, une œuvre hybride où poèmes, lettres, partitions et recettes égyptiennes millénaires s'entrelacent pour exploiter la complexité de l'identité de l'exil et de la mémoire. Un livre que j'ai adoré, que j'ai dégusté, c'est le cas de le dire, nous.
Merci.
Alors, ça commence comme ça. Ya Kawal. Ça, c'est ta grand-mère qui dit ça. Ça veut dire quoi, ça, déjà?
Oh, c'était la question de départ du livre, parce que c'est un mot que ma grand-mère utilisait énormément à la maison pour parler à tout le monde. Puis des fois, ça avait l'air fâché, des fois, ça avait l'air content, des fois, ça avait l'air plein d'amour. Puis pendant la pandémie, j'ai essayé d'apprendre l'arabe pour la quatrième fois. puis je me suis dit que j'allais commencer cette fois-ci par les mots que je connaissais déjà, dont le mot « khawal ».
« Khawal », oui.
Puis j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça voulait dire. Puis en fait, ça veut dire « tapette ».
Ah oui!
Ah ouais! Ah. Puis là, je me suis demandé pourquoi ma grand-mère traitait tout le monde de tapette. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était un mot qui avait un peu perdu son sens quand on l'utilise pour parler aux enfants ou pour gronder des gens qui n'ont pas fait de la vaisselle. Mais j'ai vu que derrière ce mot-là, il y avait une histoire fascinante, celle des hommes, entre guillemets, qui s'habillaient en femmes, entre guillemets, pour danser le baladi en Égypte au 19e siècle. Ces hommes-là, entre guillemets toujours, continuaient à s'habiller en femmes, entre guillemets, pendant la journée pour rester dans le personnage, mm-hmm. entre guillemets.
J'aime beaucoup les guillemets là-dedans.
Oui, il y a beaucoup de guillemets, Ad.
Je vais le prononcer comme il faut. Khawal, c'est un livre-objet. Moi, j'avoue là, que maintenant, il est sur ma table à café.
Yay. Et
oui, on appelle ça en bon franglais une œuvre de conversation.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de pages conversation starter. Ouais.
Ah, oui, tout à fait. Alors, pourquoi c'est essentiel de décloisonner les genres littéraires dans ce livre-là?
En fait, je l'ai pensé un peu à l'envers. Moi, j'ai toujours été une personne transdisciplinaire et fluide dans le genre et fluide dans pas mal tout. Mais en arrivant à l'école, puis surtout dans les études supérieures, on m'a dit qu'il fallait non séparer les choses, qu'il y a des disciplines claires, qu'il y a des objectifs clairs, qu'il y a des apprentissages, qu'il y a une linéarité dans l'histoire surtout. Pendant mes études, j'ai appris à séparer les choses. Puis, à la seconde où je suis sorti de l'université, j'ai tout remélangé ensemble. Puis, ça m'a pris plusieurs années à convaincre un peu mes partenaires artistiques que c'était correct.
Oui.
Puis, j'ai eu la grande chance de tomber sur une éditrice fabuleuse, Charlotte Francaire, d'abord chez Omri, puis ensuite aux éditions du Norrois, qui ont accepté de me donner la carte blanche pour que je sois vraiment moi-même.
C'est un défi, parce que c'est une brique, c'est un livre en couleur, c'est 500 pages, je vais quand même le dire, c'est un livre tout en couleur pour les éditeurs, c'est beaucoup.
Oui.
De frais.
C'est une grande prise de risque, ouais.
Ouais.
Enfin, c'est fun.
Oui,
c'est fun d'entendre ça. Non? Je sais pas, toi qui lis beaucoup, Brian, est-ce que c'est ce genre de livre-là, moi, je trouve que ça fait du bien.
Oui, bien toujours, on aime ça. Puis...
Une chance, t'as pas répondu non.
Non, j'haïs tout.
Je vais dire qu'ici, nos coups de gueule vont venir plus tard. Moi, il y a une chose qui m'a interpellée dans ce que tu écris, parce que je reconnais des choses qui font partie de mon propre parcours artistique, mm-hmm. celui de cette interrogation de la beauté, du privilège de la beauté. Mmh, mmh, mmh. Pourquoi c'est important pour toi? Moi, je répondrai à ça dans mon prochain livre.
Ben, j'ai hâte de le lire. J'avais pas réalisé à quel point c'était central pour moi jusqu'à temps que j'arrive au Caire pour la première fois en 30 ans. Je me suis acheté de quoi petit déjeuner, puis je cherchais un parc pour m'asseoir, puis manger mon sandwich au foule. Puis je voyais sur la carte plein d'espaces verts. Puis je suis allé au premier, puis en fait, c'était un site de démolition. Je me suis dit, bon, OK, ils se sont trompés. Je vais au deuxième, c'est un cimetière. Un cimetière pas vert. Troisième, quatrième, cinquième, puis finalement, je réalise que il n'y a pas de banc, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'arbre. Puis je me suis dit, my God, à Montréal, ça prend 3 secondes de trouver un parc pour s'asseoir, puis on le célèbre pas beaucoup. T'sais, on chiale beaucoup contre nos mairies qui ont toutes sortes de problèmes, mais ça prend 3 secondes de trouver un parc où s'asseoir à Montréal, surtout au printemps avec les fleurs et tout. Puis ça fait tellement du bien, puis c'est tellement un privilège. Puis justement, au Caire, après un mois, j'ai trouvé... il y a un très grand parc, en fait, au Caire. C'est le parc Al-Azhar, qui est au sommet d'une colline. Puis en fait, ce parc-là est protégé par une muraille. Il est assez dur... C'est assez dur de se rendre. Il faut y aller en Uber, en taxi. Puis il faut payer pour rentrer dans le parc. Puis une fois que tu rentres dans le parc, c'est tellement beau. C'est la végétation luxuriante qui existe en Égypte, qui peut grandir, qui peut pousser en Égypte, mais à laquelle la population n'a pas accès.
Ça, c'est le privilège de la beauté.
Oui. Oui. J'ai tout de suite connecté avec Laval.
Ah, wow.
C'est beau, Laval.
Voilà. Ça m'a surpris.
Chers amis, on est écouté à Laval, faites attention.
Non, mais je le dis pas pour... juste pour shamer Laval, mais Mon expérience quand j'étais jeune, que je traversais le pont pour aller à Laval, c'est, tu sais, le centre-ville de Laval, c'était du béton, du béton. Puis pour trouver des beaux endroits pour faire du vélo, il y a 20 ans, c'était impossible. Puis aujourd'hui encore, il y a des gens qui se battent très fort. Il y a l'organisme Canopée, par exemple, qui valorise les bois à Laval. Mais c'est une lutte de tous les instants pour conserver cette beauté-là dans nos espaces publics puis dans nos vies.
Si tu me permets, j'aimerais parler de ta double appartenance,
oui, oui.
Si je peux le dire, parce que quand on dit que tu es Québécois, mais tu as des racines égyptiennes.
Absolument.
On a vécu, puis je pense que tu as vécu ça aussi depuis 3 ans, bientôt,
ouais.
cette horreur
ouais.
en Palestine. Et comment tu vis ça au jour le jour, et surtout parce que c'est instrumentalisé par beaucoup de personnes par rapport à nos communautés queer.
Absolument. C'est pour toutes les personnes des communautés arabes ou swana sud-ouest de l'Asie, du nord de l'Afrique, c'est à peu près impossible de passer 5 minutes sans penser à ça. Toutes nos pensées, nos familles, nos contacts sont affectés. Chaque jour, quand on ouvre nos réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est des cadavres. Puis il y a une espèce de déconnexion incroyable qui se fait quand on rentre dans les cercles qui sont pas... Où on est seul, oui. Ce qui arrive quand même souvent, puis où les gens se sont levés le matin, puis quand ils ont ouvert Instagram, ils ont vu des photos de chats, tu sais. Puis nous, on a vu des photos d'enfants à la tête explosée, super graphique. Puis nous, on doit faire notre journée avec ça. Puis on doit vivre avec le fait que de dénoncer la mort des enfants, ça fait de nous soudainement des extrémistes, des radicaux, des radicales, comme si c'était... une insulte d'être radical. Moi, si on me traite de radical pour dire qu'il faut pas tuer d'enfants, je suis comme fair. appelle-moi radical autant que tu veux.
Ouais.
Mais
ou woke
ou ouais. tous ces vocabulaires qui sont qui détournent l'attention de l'important. Tuer des enfants, c'est mal. Je veux dire, ça me semble une évidence, mais il y a plein de gens au Canada qui ont perdu leur emploi pour l'avoir dit. Il y a eu plein de problèmes à Fierté Montréal l'an passé.
Oui,
absolument. Puis pour les gens des communautés swana, c'est tellement sidérant et c'est tellement difficile de faire l'exercice, en plus d'avoir à gérer toute la violence de ce qu'on voit, d'essayer de se mettre à la place des gens pour qui c'est un détail, puis pour qui c'est pas central dans leur vie, cet exercice-là de se mettre à la place de ces gens-là, et c'est trop demandé, c'est vraiment trop demandé.
Reste avec nous,
oui.
Parce qu'on n'a pas fini. Je veux qu'on parle de ton autre livre, mais on va faire ça
absolument.
Un petit peu plus tard dans okay. l'émission.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Eh oui, mais là, on s'en va à Québec, où nous attend Brian Saint-Louis. Deux œuvres. Oui, t'en as des livres, toi aussi. Alors, on va parler d'un livre quand même important, là, qui fait suite à La fille d'elle-même. C'est La fille de la foudre de Gabrielle Bouliane-Tremblay.
Oui, que vous connaissez, j'espère, maintenant, Gabrielle Bouliane-Tremblay. On la voit partout, on la voit beaucoup. Et c'est une bonne chose qu'on la voit. La première chose qu'il faut dire pour ce livre-là et pour Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est une voix essentielle, c'est une voix qui porte des réalités dont on entend peu parler, qui met ça dans l'univers populaire, qui met ça dans la littérature. C'est des choses qu'on comprend souvent pas toujours bien. C'est une très bonne chose qu'elle écrive, qu'on puisse lire ses livres et qu'elle ait le succès qu'elle a. C'est très bien. Elle a une belle plume aussi. C'est pas juste un livre qui existe pour le propos, c'est pas juste un livre qui existe parce qu'elle aborde ces questions-là. C'est une écrivaine, elle écrit très bien, c'est bien construit. Mais pour ce livre-là, je dirais, heureusement qu'elle a une belle plume, Gabrielle Bouliane-Tremblay, parce qu'elle aborde aussi des sujets quand même assez lourds.
Ah oui, le trouble de personnalité limite, hein?
Ah oui, ben il y a à peu près de tout là-dedans. On est dans une autofiction en plus. On est toujours dans l'alter ego littéraire de Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est un personnage trans qui est aussi comédienne, qui est tentée par les mots. Quand on consulte sa biographie, il y a des reflets avec sa vraie vie qu'on retrouve dans ce livre-là. Premier avertissement, ça s'ouvre sur une psychose. Donc, on sent tout de suite que ce ne sera pas léger. Le personnage principal, elle a trop bu, elle est coincée avec une mauvaise date. On ne sait pas si le gars l'a drogué, il essaie de l'agresser, elle réussit à fuir, va finir à l'hôpital. Et là, ben, tout au long du livre, ça n'ira pas en s'améliorant. On va être dans des problèmes d'attachement, des problèmes dans ses relations, des problèmes d'alcool, des problèmes d'estime de soi, un sentiment d'imposteur, la transidentité aussi qui va prendre beaucoup de place, le passé avec sa famille, des violences sexuelles. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est lourd comme parcours, on va le dire, mais donc ça donne un roman qui est assez dense. Heureusement, il va y avoir des moments de lumière, des moments de solidarité dans sa communauté, dans ses amitiés. Il y a un homme qui va finalement apparaître pour elle et peut-être promettre du mieux. Ces pages-là, elles font du bien. Donc vraiment, les livres de Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est des moments d'éducation. Oui. Populaire, moment de compréhension, d'empathie. On apprend beaucoup. C'est sûr que là, chaque vie trans est unique, mais il y a des lieux communs quand même dans toute cette histoire-là. Puis elle les écrit bien. Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ces communautés-là et de faire un peu plus preuve d'empathie par rapport à eux. Ça manque souvent. Ça reste une œuvre littéraire, mais il y a des passages, là, par contre, je vais dire, qui sont un petit peu plus proches du militantisme. On est dans l'éducation vraiment très, très intense. Là, le jupon dépasse un peu pour le côté militant, mais c'est quand même important qu'on retrouve ces passages-là dans le livre parce que ça prend des gens qui écrivent ça, qui nous parlent de ça et qui mettent ça dans les mains de tout le monde. Donc, un livre fort intéressant, pertinent et utile, La fille de la foudre, Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est chez... Marchand de feuilles, habituel, où elle avait publié son roman précédent qui avait remporté le prix des libraires, faut le rappeler.
Oui, tout à fait. On change l'univers. Philippe Aubert-Côté, qui est un collaborateur à notre émission, lui nous amène dans l'univers du Poppy Play et c'est le titre de son livre.
Oui, hey, si vous vouliez une chronique où mes deux livres ne fitent pas du tout ensemble. des univers complètement différents. On était dans le très dense, le très littéraire avec Gabrielle Bouliane-Tremblay. Poppy Play, oui, c'est comme tu viens de le mentionner, un collaborateur à l'émission. Donc, c'est ça, vous connaissez ce nom-là. Allez découvrir ce livre-là, soyez curieux. Ben, premièrement, il y a tellement de choses là-dedans, j'espère que je vais bien le résumer. Premièrement, on plonge dans l'univers des poppies, comme le titre l'indique, donc les poppy plays, ceux qui portent des masques de chiens. Moi, c'est un univers que je connais pas vraiment très bien. Je sais pas pour vous. Moi, par contre, j'ai trouvé, même si je connaissais assez peu ça, c'est bien rendu. On comprend. On va suivre le personnage de Cookie Pop, Montréal. Qui est très impliqué dans le monde du poppy play. Il travaille dans une boutique d'accessoires qui s'appelle Maître Grizzly, qui a pignon sur rue sur la Sainte-Catherine. Je suis sûr que les lecteurs de Montréal vont avoir beaucoup de plaisir à lire ce livre-là parce qu'il y a plein de références. On est au cœur du quartier gay. C'est des lieux qui existent vraiment, mais avec des noms différents. Vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir. Et là, Cookie Pop, il vit avec sa meute, il s'amuse avec ses amis, il travaille. Mais là, il est aussi poursuivi par un ex pas fin qui n'a pas été toujours gentil avec lui, qu'il tente d'éviter. Est-ce que c'est son plus grand problème? Non, parce que Cookie Pop va commencer à observer d'étranges phénomènes autour de lui. Il y a des bruits au travail, il y a des apparitions de personnages, d'entités, des passages secrets qui surgissent au travail ailleurs. Là, on va être entraîné dans une cavale complètement folle, fantastique. Il y a de l'horreur, il y a du gore. Ceux qui aiment ce style-là, vous allez être très servi. Et là, la réussite de ce livre-là, quand même, c'est d'arriver à mélanger ces univers-là au complet. Le poppy play, c'est pas là pour être là, pour être cute. Ça a vraiment une signification, ça s'imbrique très bien dans l'histoire. Donc, on plonge dans ce monde-là. Il va y avoir des liens et tout. Donc, c'est une lecture, moi, que j'ai trouvée surprenante.
Oui.
J'ai appris aussi beaucoup sur un autre univers. J'ai appris sur les trans avec Gabrielle Bouliane-Tremblay. J'ai appris sur le monde des poppies avec Philippe Aubert-Côté. C'est aussi un roman... Ben, ça devient un page-turner, évidemment, là, oui. Comme tout à lire. On est pris dans l'histoire. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est funky, c'est différent, c'est fantastique. Et c'est bien de voir que ça non plus, c'est pas un livre qui existe juste pour son propos LGBT. Il y a une histoire, tout s'imbrique très bien. C'est une belle petite surprise pour ceux qui aiment les lectures fantastiques et différentes. Poppy Play, publié chez Alire, la maison d'édition de Patrick Sénécal, entre autres, si vous voulez vous le replacer un peu, le oui. Genre de...
Puis qui a participé à cette émission d'ailleurs déjà avec... c'était tellement plaisant de le recevoir parce que lui considère que nos communautés sont intéressantes. Il en met partout dans ses livres quand il a la chance de le faire.
Yes!
Alors c'est ça qui est le fun. Oui, hein?
Yes!
C'est le fun des alliés comme ça. Reste avec Brian. Moi, je vais aller rapidement parce que je voulais qu'on parle de ton autre titre que je n'ai pas lu encore, mais qui est un livre pour enfants.
Oui.
Là, je trouve ça intéressant. Pourquoi l'univers des enfants? Ou jeunesse, je devrais dire.
Ouais. L'impulsion de départ, c'était surtout pour Élodie Dermange, l'illustratrice, et moi-même de nous faire du bien à notre enfant intérieur.
Ah, voilà! Parce que j'ai toujours su qu'il y avait une enfant quelque part.
Ah oui, oui, l'enfant n'est jamais loin derrière. On s'est rencontrés en 2020 pendant la pandémie, puis Élodie est suisse, puis dessinait beaucoup les personnes qu'elle voyait à Montréal, flamboyantes, s'exprimer, parler visuellement dans leur existence, puis en Suisse, c'est quelque chose qui existe moins, c'est plus normé, il y a moins d'espace d'expression, puis elle a commencé à faire des portraits, puis tout de suite en les voyant, je me suis dit « Oh my God! » Faudrait que bébé Nour et que bébé Élodie voient ça et accès à ça. Puis on a décidé d'écrire un...
Moi, à chaque fois que je te vois, je vois toujours aussi un enfant quelque part là-dedans.
Ah oui, oui. Puis on s'est dit qu'on allait faire un enfant autour de portrait... un enfant, wow!
Ben, quel beau lapsus! On s'est dit qu'on allait faire un enfant.
Faire un livre autour de portraits de belles personnes à présenter aux jeunes. Puis c'est des histoires qui se passent pas nécessairement au sujet d'enjeux queer. On voulait montrer que les personnes queer peuvent vivre des choses autres que des coming out. Oui. Donc, on explore des cavernes, on se lit des histoires, on fait toutes sortes de choses autres.
Alors là, on s'en va vers toi, mais tout de suite, avant, on va écouter ça.
Oh! C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus!
C'est nos coups de cœur. Ça longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Je me peux plus.
Alors, ton coup de cœur?
Eh bien, j'en ai plusieurs, mais je vais me concentrer sur mon plus gros coup de cœur de l'année. Et moi, c'est la série Empathie de Florence Lompré.
Oui.
Je ne vais jamais en revenir, je pense. C'est tellement... Ça me rend...
C'est mon grand rêve. S'il y a quelqu'un qui nous entend, j'aimerais que Florence Lompré vienne à l'émission. Oui,
okay. Je trouve que cette série-là, c'est un coup sûr. Je suis fière que ça existe au Québec. Je suis vraiment fière de cette série-là qui est queer, puis qui est queer d'une façon que je trouve tellement décomplexée, tellement justement que l'arc des personnages ne fait pas, que leur queerness n'est pas l'arc de leur personnage. Non. C'est vraiment juste, ça fait partie de leur vie. C'est un personnage qui est bisexuel. C'est super bien mis à l'avant. Des belles romances queer. Il y a des actrices trans. Il y a des personnages comme ça qui vivent des enjeux. Puis je veux dire, la série entière parle de l'importance d'avoir... Tenez-vous bien, de l'empathie, l'ouverture d'esprit, de la compassion pour les douleurs des personnes marginalisées. C'est incroyablement bien fait, je trouve. Il y a une belle sororité là-dedans. Selon moi, c'est un coup sûr. Il y a de l'humour. C'est une douceur à écouter, même si c'est dur. Tu sais, ça traite de sujets qui sont réels et concrets d'une façon avec une main de maître. Vraiment, j'ai rien à dire contre la série. Je suis complètement vendue à 100%.
Qui d'autre l'a regardé?
Ah, je l'ai regardé aussi. Oui,
ah, oui, toi? Bon. Comment
j'ai adoré. Puis, je pense que c'est important des fois de nommer aussi les pistes d'amélioration parce que le personnage trans dans sa dernière série était un des pires de l'histoire du Québec.
Ouais. Ah oui?
Mais, oui, le,
ah, oui,
le...
Oui. C'était m'entends-tu, hein, c'est ça? Oui.
Mais le reste, en tout cas, mais la courbe d'amélioration avec le personnage joué par Lyraël Dauphin est absolument hallucinant parce que, au contraire justement du personnage trans dans sa dernière série, le personnage joué par Lyraël est plein de nuances, a une profondeur, a une personnalité, et pas un stéréotype ambulant.
Exactement.
Et exactement ce qu'on veut voir à la télé comme représentation
vraiment
trans et joué par une personne trans.
Et c'est tellement important. Tu sais, c'est à la limite, Florence, l'autrice, de ce que je sache, n'est pas queer.
Pas du tout, elle est en couple avec Pascal Cameron.
Oui, elle aurait pu être bi ou pas.
Vrai.
Ou...
Oui,
mais de ce que je sais, elle ne l'est pas. Puis je trouve que ça paraît qu'il y a eu de la recherche derrière. Mm. Ça paraît qu'il y a eu dans la plume, en tout cas, en tant que femme bi puis queer, je me suis reconnue dans sa plume. Je me suis reconnue dans son interprétation même. Puis oui, je trouvais ça tellement... Je suis d'accord avec toi. Le personnage qui est trans, c'est comme je l'ai expliqué, ça fait partie de sa vie. Puis il y a quelque chose de tellement
personne autre, elle vit pas nécessairement de violence systémique à l'écran, on le sous-entend, oui. Mais c'est pas violent à écouter. Enfin, un personnage trans qui vit pas de violence, ça fait du bien.
Puis, je vais pas divulgacher, mais toute l'histoire du bébé. Pas du bébé, mais faite de sa conjointe qui était enceinte. Ah, mon Dieu. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai pleuré après chaque épisode. Je les écoutais en rafale et ça me coûtait cher de Kleenex.
C'est qu'on pleure, mais qu'on pleure avec le cœur plein d'amour. C'est particulier.
Je sais pas si. Je voyais, Brian, tu l'as vu toi aussi, c'est ça?
Voyons donc.
Et comment... voyons donc.
Tu veux ajouter quelque chose?
Mais non, mais c'est qu'on entre à la deuxième là, saison. Là.
La barre est haute.
Oui, ben c'est ça. Oui. Puis il y a aussi le Canal C en France hein, qui va s'impliquer cette fois-ci.
OK.
Mais moi, j'ai un autre coup de cœur, si vous me permettez. Ça s'appelle Rivalité passionnée ou Heated Rivalry. C'est pas... on n'est pas du tout dans le même jeu. On est dans le hockey cette fois-ci. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que enfin, on parle d'homosexualité dans le hockey. Là, on est vraiment basic, là, ces deux gars. Et vraiment, on est allé là et j'ai trouvé que c'était bien joué, bien fait. Et ce que j'ai adoré, c'est quand François Arnault, oh là, je vais le divulgacher, fait descendre son chum lorsqu'il gagne la Coupe Stanley pour l'embrasser devant tout le monde sur la patinoire. J'ai dit « right on ». Et tous les homophobes là, qui nous jettent là, plein de cochonneries ces jours-ci, j'espère qu'ils ont bien vu ça.
Et puis si je peux rajouter à Heated Rivalry, ce que je trouve le plus pertinent, c'est à quel point il y a des belles scènes de sexualité niveau cinématographique
c'est
et
beau.
De consentement. Il y a plein de consentement là-dedans. C'est beau à voir, c'est beau à regarder.
Ouais. J'aimerais ça qu'Éric Duhem regarde ça, parce que il a déjà écrit que le consentement en tombe, ça n'existe pas.
Oh, mon Dieu.
C'était tellement beau, tu sais. Est-ce que je peux? Est-ce que ça va?
Est-ce que tu es à l'aise? Oui, c'est vraiment le fun à voir. Puis aussi, la couleur chaude, les angles, des corps, comment c'est fait. C'est beau. C'est vraiment beau.
Est-ce que je comprends, il y a toute une culture qui s'est construite autour. Il y a des soirées de visionnement.
Oui.
Ouais, puis il y a les produits dérivés. Là,
les parties de danse, Heated Rivalry.
On va s'entendre, j'embarquerai pas là-dedans, mais en tout cas, est-ce que toi, t'avais un coup de cœur à nous dire.
Ah mon Dieu, j'ai tellement eu de coups de cœur cette année. J'irai avec le podcast Amphibie.
Oui.
De cette côté, qui est fascinant parce que c'est un podcast qui parle d'écologie queer. La prémisse du show, c'est que la queerness fait pas juste exister dans la nature, mais en fait la nature est incroyablement queer de A à Z, puis c'est l'hétéronormativité qui est plutôt l'exception, avec plein d'exemples des biologistes, des gens qui ont toutes sortes de formations, toutes sortes de compétences, de savoirs qui viennent nous
c'est
le partager.
Génial.
Ça m'a, je sais pas, ça m'a juste rendu heureuse d'écouter ce podcast-là.
Excellent.
Ça donne envie, je le connaissais pas, je vais aller écouter.
Puis rapidement, Brian, t'as un petit coup de cœur que tu veux ajouter, toi?
Ah, bien, rapidement, juste pour dire, encore dans les livres, parce qu'on vient de terminer le temps de Noël, si vous n'avez pas fini tous vos desserts, moi, le coup de cœur qu'on a eu dans les dernières semaines à la maison, c'est le livre Nostalgie. Je ne sais pas si vous avez vu ça
non.
passer.
Non,
non.
Antoine Goulet et Philippe Diquet, c'est un livre de dessert.
miam, miam.
Allez voir ce livre-là, Nostalgie. C'est des vieilles recettes pimpées un peu. On trouve entre autres genre des biscuits à la Paperman Rose. Là. Tout est bon là-dedans. Ça donne tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour tomber dans un beau coma diabétique. Je suis sûr. En dessous de beaucoup, beaucoup de sapins à Noël. Mais un très beau livre de recettes fait par un couple gay, donc qui mettent de l'avant leur talent et voilà. Donc,
ils vont nous faire, puis pour nous faire prendre du poids.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
J'en peux plus!
C'est vrai que c'est drôle. Hein? Bon, nos coups de gueule. Ben, je vais commencer, puis on va pas en dire trop. Brigitte Bardot.
Ça dit...
Franchement... J'ai des amis qui m'ont donné plein de caca parce que j'avais publié les choses horribles qu'elle avait dit sur les personnes queer, les personnes gays. Et j'aimerais rappeler aux gens que la beauté, ce n'est pas de la grandeur. Mm.
Oh,
la beauté, ce n'est pas de la bonté. Mm. Cela dit, je vous laisse aller avec vos coups de gueule.
Le mien, c'est en fait un, mais ça regroupe tout ce qui... pourrait s'y retrouver, c'est des numéros d'humour, parce que c'est mon milieu, que je sais pas pourquoi les hommes cis font une valeur principale de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et c'est bourré de billets. Je parle entre autres du numéro pansexuel de Mathieu Cyr. J'ai espérer qu'au moins, au minimum, les informations factuelles sur la communauté étaient véridiques. Non, malheureusement, des mauvaises définitions du mot queer, des mauvaises définitions en général de certaines identités, bourrées de biais, bourrées de... en fait, l'angle de fond, c'est un... c'est bien compliqué vos affaires, c'est vous qui êtes intolérant. J'ai tout haï. Il y a de l'humour, je veux dire, certaines phrases peuvent être super drôles, certaines images peuvent être drôles, mais tu vois, de façon générale, je trouve que c'est du premier degré facile, un peu à la allosexuelle, des gens qui aiment ça, sont excités par les salutations. Je suis comme, ouf, ça, c'est la première idée. Là, on s'est arrêté là. Et ça regroupe, bref, tous les numéros d'humour que j'ai vus d'hommes hétérosexuels cis qui parlent de transidentité, mais qui n'y connaissent rien et c'est bourré de billets.
Il me reste une minute. Rapidement, un coup de gueule.
Mon coup de gueule principal, ce serait le both-sidism, le fait de donner la parole à ce qu'on considère être deux côtés d'une même médaille. Ah, je m'excuse, oui. Mais le fascisme et la gauche, c'est pas la même chose. Non. Et le summum, pour moi, de ce both-sidism, c'est tout ce qui s'est passé autour de Fierté Montréal cet été. Et mon coup de gueule se finit en coup d'amour pour Wild Pride.
Oui!
Rapidement, Brian.
Oh mon Dieu, moi j'en avais pas de coup de gueule, j'étais encore dans la bonté, mais 2026 commence difficilement, fait que je suis sûr qu'on va en avoir quelques-uns au cours de l'année, des coups de gueule.
On va avoir une petite pensée pour nos amis queer au Venezuela.
Oui, 100%.
Hey, merci la gang, c'était le fun. Merci Joël Prédhomme, merci Brian Saint-Louis et merci Nour Simon.
Quelques grand autres, plaisir.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
C'est tout pour ce 124e épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci d'être là. Je tiens à remercier notre équipe de recherche, Godéric Traub et Marie Massé. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Et merci à toute l'équipe de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, Philippe Lapointe et Majorité d'Or. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine.